que Dieu, mais qu'il aimait Dieu plus que lui-même, puisqu'il consentait à être privé pour un temps de la jouissance de Dieu qui se rapporte à l'amour de soi-même afin de procurer l'honneur de Dieu dans son prochain, ce qui est une manière d'aimer Dieu. Donc on voit ce qu'il veut dire, c'est que là encore la même chose, c'est que souhaiter être anathème pour ses frères, enfin, c'est s'oublier soi-même, si vous voulez. C'est d'essayer de regarder le prochain et de regarder le prochain dans l'amour du Christ pour l'aimer pleinement dans cet amour du Christ. Et donc, c'est laisser le prochain passer devant nous à cause de l'amour du Christ. Alors à ce moment-là, on voit très bien la raison. On l'aime à cause de l'amour du Christ, on le laisse passer à cause de l'amour du Christ. On verra donc demain le point de vue de la joie. Comment concilier le texte de saint Thomas recommandant d'aimer intensément un ami plutôt que difficilement un ennemi avec les propres recommandations de Jésus? Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-il, même les pécheurs en font autant. Oui, je vois très bien la question posée. Il faut faire un petit peu attention. Je crois que ce n'est pas tout à fait la même chose. Les deux textes sont un peu différents. Jésus parle d'aimer simplement, d'un amour au fond humain, parce que les pécheurs n'aiment pas de charité. Vous voyez, donc la comparaison de Jésus se fait tout simplement au point de vue humain, pour faire comprendre que ce qu'il y a de particulier dans la Nouvelle Alliance, c'est d'aimer ses ennemis. Tandis que saint Thomas se place, lui, au niveau de l'exercice même de la charité. Dans l'exercice de la charité, il compare deux exercices de la charité, ce que ne fait pas Jésus. Vous voyez ? Donc il n'y a pas d'opposition entre les deux. Parce que saint Thomas se place au niveau de l'exercice même de la charité. La charité regarde les amis, la charité regarde les ennemis. Et saint Thomas se pose la question, où y a-t-il le plus de mérite? Où la charité est-elle le plus intense? Oui, ça c'est la question du théologien. Tandis que saint Thomas, lui, se place d'une façon, je veux dire, alors... Tandis que notre Seigneur se place, lui, d'une façon beaucoup plus générale, pour faire comprendre que ce qu'il y a de particulier à la charité de la Nouvelle Alliance, c'est de pouvoir aimer ses ennemis. Vous voyez ? Autrement dit, c'est le caractère propre de la Nouvelle Alliance d'aimer ses ennemis. Ce que saint Thomas reconnaît aussi. Tandis qu'aimer ses amis, mais c'est un amour naturel. Oui, Alors l'amour naturel doit être surnaturalisé, et c'est la question que se pose saint Thomas. Donc il y a deux questions différentes, on ne peut pas les mettre en parallèle comme une espèce de contradiction. Je ne sais pas si vous voyez suffisamment bien. Parce que c'est important, eh bien, d'en être en opposition. Deuxièmement, vous avez parlé d'amour humain et d'amour divin. Quelle est la différence entre les deux? Justement, l'amour humain, c'est l'amour d'amitié, dont le motif, c'est d'aimer simplement le prochain. L'amour divin, c'est d'aimer, dont la ratio diligendi, la raison d'aimer, c'est le Christ. J'aime le prochain à cause du Christ, ou dans l'amour du Christ. Alors c'est la ratio diligendi, la raison d'aimer, ce n'est plus la personne humaine en premier lieu, mais c'est Jésus lui-même. C'est la personne divine, c'est l'amour divin. Peut-on aimer quelqu'un pour lui-même d'un amour humain? Oui, dans l'amour d'amitié. Dans l'amour d'amitié, on aime vraiment l'autre pour lui-même. Dans le véritable amour d'amitié. Hein. Parce que dans l'amour d'amitié, c'est très rare. Hein. C'est très rare qu'il y ait un véritable amour d'amitié au point de vue humain. Vous savez bien, il y a facilement l'amour de plaisir ou l'amour d'utilité. J'aime quelqu'un parce qu'il m'est très utile. Il n'y a pas beaucoup de gratuité. Hein. J'aime quelqu'un car il m'est très utile. Oui, c'est le fort en thème qui aime le fort en version. C'est très utile pour les examens. Alors je l'aime de cette manière-là. C'est évidemment pas très gratuite. C'est pour ça que l'amour à cause de l'utilité est un amour qui est évidemment assez rasmote. C'est très efficace. Et c'est l'efficacité qui l'emporte. Et c'est pour ça qu'il faut souvent des contrats. Le contrat est utile quand c'est de l'ordre de l'efficacité. L'amour d'amitié est plus parfait dans l'ordre qu'on aime l'autre à cause de la joie qu'il me procure, à cause de la jouissance qu'il me procure. C'est agréable d'être avec lui. Avec un autre, c'est dû au... C'est qu'il y a des gens amicabilis, c'est tellement agréable. Tout est facile, tout est merveilleux. Ils sont amicabilis. Alors je les aime à cause de ça. Je ne l'aime pas à cause de lui. Je l'aime parce qu'il crée un milieu joyeux, merveilleux, étonnant. C'est extraordinaire. Ça va très bien avec lui. Donc je l'aime parce qu'il crée ce milieu et parce qu'il me procure de la joie. C'est plus facile de travailler avec lui. Et puis j'aime humainement l'autre pour lui-même. Alors je l'aime pour lui-même. Je l'aime en tant qu'il est telle personne. Et c'est la personne que j'aime. Et non pas ses qualités. Vous voyez ? Tandis que dans l'amour de joie, c'est à cause de ses qualités. Dans l'amour utile, c'est à cause de ses capacités. Tandis que dans l'amour vrai, véritable, je l'aime pour lui-même. Alors, c'est toujours un peu mélangé, vous comprenez bien. C'est toujours un peu mélangé, c'est sûr. Et Aristote n'hésite pas de dire que aimer l'ami pour lui-même, c'est en même temps l'aimer à cause de ses qualités. Et c'est aussi l'aimer parce que c'est le meilleur des serviteurs. On peut tout demander à un ami, tandis qu'on ne peut pas tout demander à quelqu'un qui n'est pas un ami. De sorte que l'amour véritable qui regarde la personne humaine va assumer les autres modalités d'amour. Assume la modalité de joie et d'efficacité de serviteur. Mais cependant, il reste vrai que le véritable amour d'amitié, c'est aimer l'autre pour lui-même et non pas pour nous. Quand on aime un ami, on l'aime certainement très humainement. Comment faire la différence entre l'amour divin, avec l'amour divin? Je dirais que l'amour divin peut assumer l'amour humain. Très bien, et c'est ce que saint Thomas parle ici quand il parle de cet amour divin qui aimait aimer nos amis. Donc c'est l'amour divin qui assume l'amour humain et qui vient mettre dans l'amour humain un nouveau motif, une nouvelle raison d'aimer. Je l'aime à cause du Christ, je l'aime dans le Christ, je l'aime dans la lumière du Christ, je l'aime avec le cœur du Christ ou avec le cœur de Marie. voyez. Donc, c'est un nouveau motif. Alors, c'est évident que là, on fait le discernement. On doit être suffisamment lucide dans son amour pour savoir qu'on aime quelqu'un pour le Christ. On sait très bien qu'on l'aime aussi pour lui-même. Vous voyez, on le sait très bien, il ne faut pas se leurrer. De temps en temps, on l'aime vraiment pour le Christ. Parce que si le Christ n'était pas là, sûrement que on prendrait mille raisons de ne pas le voir. On est très pressé, on est très très pris, on a mille raisons. Alors on l'aime pour le Christ, vraiment. Vous voyez ? Alors, on le sait bien. C'est pour ça, vous voyez, que aimer pour le Christ ses ennemis, c'est plus clair. C'est ce que saint Thomas souligne. Aimer ses amis pour le Christ, c'est moins clair. Parce que les deux motifs sont là présents. Alors on voit bien. Mais petit à petit, ça se clarifie. Je crois que très souvent, la meilleure chose de voir, c'est que est-ce qu'on a d'abord aimé quelqu'un humainement ? Si on a aimé d'abord quelqu'un humainement, c'est beaucoup plus long à diviniser que l'inverse. On aime quelqu'un d'abord à cause du Christ. Et puis petit à petit, le Christ fait qu'on a vis-à-vis de lui une véritable amitié humaine. Alors cette amitié humaine est née à l'intérieur d'un amour divin. Tandis qu'il peut y avoir des amitiés humaines qui naissent en dehors de l'amour divin. Oui. Et alors, on voit très bien la différence dont une amitié humaine qui naît à l'intérieur d'un amour humain, elle se purifie plus vite qu'une amitié humaine qui est née en dehors d'un amour humain, en dehors d'un amour divin, et qui a plus de peine à se purifier. Mais je crois qu'on doit avoir suffisamment de lucidité pour reconnaître, quand on aime quelqu'un, le véritable motif, la raison pour laquelle on l'aime. On peut. Si c'est pas très limpide, ça prouve que la passion est encore très forte. Et donc il y a des chances que l'amour humain l'emporte. Si c'est très divin, c'est très lucide. C'est toujours le caractère propre de l'amour divin, c'est qu'il est lucide. Il implique une passion, ça c'est sûr. J'aime Dieu passionnément, du moins j'espère qu'on l'aime passionnément. Mais la passion est éveillée par la charité divine. Vous voyez, là encore, c'est la charité divine qui assume la passion et donc qui la rend beaucoup plus limpide. Tandis qu'au contraire, quand la passion passe devant, elle est un peu déchaînée. Et alors, elle n'est pas par nature limpide. La passion n'est pas limpide par elle-même. Elle est plutôt obscure. C'est la pâte qui n'est pas encore très transformée par le levain. Et alors, c'est une pâte, ça vient. Surtout une pâte cuite, sans transformer du levain, ça fait quelquefois très lourd. Hein. C'est très lourd. Et il y a des amitiés qui sont comme ça. C'est très lourd. On sent bien. C'est vraiment une pâte cuite sans levain. Elle est terriblement lourde. Lourde à digérer. Bon, je vais continuer. Sauf s'il y a d'autres questions. Il ne faut pas hésiter de les poser, parce que c'est des questions très importantes pour nous, dans notre lucidité chrétienne à avoir. Alors, on avait vu, l'amour de Dieu doit-il être modéré ? C'est pas ? Pas la peine de revenir là-dessus, je crois que c'est assez facile de comprendre que l'amour divin ne doit pas être modéré, puisque c'est l'amour lui-même qui a sa propre mesure. L'article 7, c'est l'article 8 qu'on a classé. On avait terminé, on est donc à la joie, et la joie. Il nous faut étudier maintenant les effets produits par l'acte principal de la charité, qui est l'amour dilection. L'amour ou dilection, ou l'amour de dilection. D'abord, les effets intérieurs qui sont la joie, la paix, la miséricorde. Ensuite, les effets extérieurs. Donc la joie est un effet intérieur. À propos de la joie, on se demande, est-elle produite dans nos âmes par la charité ? Est-elle concrète ? compatible avec la tristesse? Peut-elle être pleine et entière? Est-elle une vertu? Alors, mais si c'est la joie, ce n'est pas la jouissance. Vous savez bien la différence entre joie et jouissance. Hein, la jouissance est premièrement sensible. La joie est premièrement spirituelle. Donc, la charité cause-t-elle en nous de la joie? Est-elle source pour nous de joie? C'est ça que ça veut dire. Alors voici ce que saint Thomas nous dit. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Or, la joie est un don de cet Esprit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice et la paix et la joie dans l'Esprit Saint. La charité est donc bien pour nous une cause de joie. Donc vous voyez, c'est tout simplement en rapportant ces deux textes que saint Thomas montre le lien qui existe entre la charité et la joie. Alors dans le corps de l'article, il va préciser, il a été dit dans le traité des passions que la joie et la tristesse sont causées par l'amour. Au niveau passionnel, c'est évident qu'il y a une joie, une jouissance, une joie causée par la passion. Et il peut y avoir aussi une tristesse. Si la tristesse est toujours le signe d'un amour qui est un peu frustré. Hein. S'il n'y avait pas d'amour, on ne serait pas triste, on serait dans un état d'indifférence. Le bon petit brouillard matinal. En état d'indifférence. C'est pas la paix, hein. Tandis que la tristesse provient toujours d'un amour qui n'est pas satisfait, un désir qui n'est pas satisfait. Alors on est triste. La frustration d'un désir, la frustration d'un amour provoque toujours la tristesse. Donc il a été dit dans le traité des passions que la joie et la tristesse sont causées par l'amour. Mais pour des motifs opposés. La joie en résulte, ou bien parce que l'objet de notre amour nous est présent, ou encore parce que lui-même possède et conserve ce qui est son bien. Donc c'est la présence de ce qu'on aime qui nous donne de la joie. Oui. La présence de ce qu'on aime. On aime le chocolat, la présence du chocolat provoque de la joie. Une présence immédiate, hein, parce que c'est une présence lointaine, vous comprenez, fabrique de chocolat qui est à 10 km d'ici, n'est-ce pas, ne provoque pas beaucoup de joie. Donc il faut une présence qui est en même temps une possession, n'est-ce pas. On le garde aussi, c'est ce qui est souligné ici, n'est-ce pas, c'est qu'on le conserve. C'est très bien, ça. Ce second motif caractérise surtout l'amour de bienveillance qui nous fait nous réjouir du bonheur d'un ami même en son absence. Par contre, la tristesse est causée ou par l'absence de l'objet aimé ou parce que lui-même à qui nous voulons du bien est privé du bien auquel il a droit. On souffre de quelque mal. Alors, ou c'est le mal par rapport à nous, ou c'est le mal par rapport à celui qu'on aime. On est triste parce qu'on voit un ami qui est triste. Il est triste parce qu'il n'a pas son bien. Alors on est triste de sa tristesse. C'est une manière de compatir, vous voyez. On est triste de sa tristesse. Et saint Augustin souligne qu'être triste de la tristesse de l'ami soulage l'ami de sa tristesse. Parce qu'il y a au moins quelqu'un à côté de nous qui nous comprend. Tandis que quand on a la tristesse et qu'on est seul, alors la tristesse augmente. Tandis que quand on voit quelqu'un qui est triste parce qu'on est triste, ça nous donne un tout petit peu d'aide. Et quelquefois même beaucoup. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont tristes par un désir d'être triste pour voir si l'ami est triste à cause de sa tristesse. C'est Ça existe, ça fait partie de ces petits raffinements particuliers des passions, vous voyez. Je vais voir, c'est bon, alors je vais être triste. Mais par la charité, c'est Dieu qu'on aime, Dieu dont le bonheur est immuable, parce qu'il est à lui-même son propre bien. Or, du seul fait qu'il est aimé, il est dans celui qui l'aime par le plus excellent de ses effets. Selon cette parole, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Ainsi donc, la joie spirituelle qui a Dieu pour objet est causée par la charité. Et le raisonnement de saint Thomas, ça c'est un très beau raisonnement théologique, hein, c'est de chercher la cause. On cherche la cause. D'où vient la joie spirituelle? La joie spirituelle vient de mon union avec Dieu. Et mon union avec Dieu se fait par la charité. Donc, la joie spirituelle est causée par la charité. Puisque c'est la charité qui me permet de demeurer. Dieu est présent. Pour qu'il y ait joie spirituelle, il faut présence de Dieu en nous. Quelle est la plus belle des présences de Dieu en nous? C'est par la charité. Donc, c'est la charité qui est source de cette joie spirituelle. Vous voyez, c'est très curieux que saint Thomas ait fait appel, hein, ça fait partie des raisonnements théologiques de saint Thomas, qui sont intéressants à noter. Quand il s'agit de l'amour, saint Thomas fait toujours appel au premier analogué de l'amour en nous, qui est la passion. Le premier amour que nous connaissons le mieux, c'est l'amour passionnel, parce que nous sommes des êtres sensibles. Et c'est toujours par le point de vue de la passion que saint Thomas fait comprendre les grands, je dirais, ce qu'il y a de plus profond dans l'amour spirituel. Alors comprenons bien, c'est un raisonnement analogique. Hein. Faut pas dire, donc pour saint Thomas, la passion, l'amour c'est toujours la passion. Pas du tout. Saint Thomas sait que ce qui est le plus conscient psychologiquement en nous, c'est l'amour passionnel. L'amour spirituel n'a pas du tout la même conscience. Puisque l'amour spirituel, surtout surnaturel, passe par le point de vue de la foi. Je peux donc très bien vouloir aimer Dieu et ne ressentir aucune joie. Et pourtant, je suis dans la joie. Si je veux aimer Dieu d'un amour divin, Dieu est en moi. Et donc j'ai de la joie. Mais je ne la ressens pas toujours. Je ne ressens pas toujours cette joie, parce qu'elle est divine, elle m'échappe. Tandis qu'au niveau passionnel, c'est bien évident. Au niveau passionnel, je sais très bien ce qui me procure de la joie et ce qui me procure de la tristesse. Moi, je le sais très bien. C'est très bien. Si on se connaît un tout petit peu, on connaît le jeu des passions en nous, le jeu de la joie et de la tristesse. Je sais très bien quand je suis en joie, dans la joie. Et je sais très bien quand je suis dans la tristesse. J'ai le sentiment de la joie, le sentiment de la tristesse. Ça, c'est passionnel. Vous voyez, quelquefois, on se lève le matin avec beaucoup de joie dans le cœur. Ah, peut-être une joie spirituelle, surnaturelle. Hein. Très ressentie, très profondément ressentie. Toute la journée est illuminée par cette joie. Tandis qu'on peut se réveiller le matin avec une tristesse mortelle dans le cœur, au niveau passionnel, et alors à ce moment-là, toute la journée est enténébrée. Pas toujours, hein, parce que si on fait un acte héroïque d'amour, le soleil apparaît, et le brouillard matinal disparaît. Autrement dit, vous voyez, on comprend très bien pourquoi saint Thomas fait ça. C'est parce qu'au point de vue de ma conscience, j'ai une conscience plus aiguë des passions. Oui, c'est en ce sens-là qu'on voit le rapport entre saint Thomas et la fémologie. Oui, parce que les fémologues qui se disent thomistes, ils voyaient bien, saint Thomas fait ça. Et c'est vrai, saint Thomas fait ce raisonnement-là. Il passe par les passions. Comme un fémologue le ferait. Quel est le vécu? Quel est mon vécu le plus fort? Ben, c'est mon vécu passionnel. C'est bien évident, c'est mon vécu passionnel. Au niveau humain, vous voyez, c'est mon vécu passionnel. C'est ce qui est immédiat, cela. Mon vécu spirituel... Oh, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus difficile à voir, hein, c'est pas toujours commode à voir. Et mon vécu surnaturel, il est encore beaucoup plus difficile à dépister, hein, parce qu'il est à travers la foi. Et donc, il est beaucoup plus difficile. Alors, pour éclairer le vécu surnaturel, je me sers du vécu passionnel. Oui, pour éclairer. Alors, voyons les diverses réponses, les diverses objections. N'est-ce pas plutôt le contraire? L'absence, quand on aime, cause de la tristesse plutôt que de la joie. Mais Dieu que nous aimons par la charité est loin de nous tant que nous sommes en cette vie. Aussi longtemps que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de Dieu. Corinthiens. Saint Thomas répond. Aussi longtemps que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur. Si l'on nous compare à ceux qui sont en sa présence, et jouissent de sa vision, car nous marchons par la foi et non par la vue. Mais Dieu n'en est pas moins, même en cette vie, présent à ceux qui l'aiment, par la grâce qui le fait habiter en eux. C'est très beau comme réponse. Vous voyez bien. Si je me compare au bienheureux, il est bien heureux, il est bien évident que les bienheureux sont toujours dans la joie. Et ils vivent de cette joie intensément, dans la lumière. Tandis que moi, je ne vis pas toujours dans la lumière et intensément de cette joie. C'est très vrai, René. Si chaque fois que je faisais oraison, les batteries seraient complètement rechargées au point de vue de la joie, ce serait merveilleux, c'est extraordinaire. Je me mettrais pendant une heure... n'est-ce pas, en contact avec la source, et puis je verrais, ça monte, ça monte, ça monte. Alors au bout de 2 heures, c'est extraordinaire, c'était une chaleur merveilleuse. Non, ça ne se fait pas comme ça, tu vois. Mais substantiellement, profondément, c'est vrai, ça se fait comme ça, mais j'en ai pas toujours le sentiment. Je suis dans la foi. Je sais que c'est comme ça. Et si je ne vais pas me recharger mes batteries tous les jours, je sais très bien qu'au bout d'un certain temps, sera en dessous du niveau de la mer, ça n'ira plus du tout. Mais j'en ai pas toujours conscience. Oui. Tandis que ceux qui sont dans la vision béatifique en ont une pleine conscience. Donc, comparativement à ceux qui sont dans la vision béatifique, c'est très vrai de dire, aussi longtemps que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur. Mais comparativement à ma vie humaine, je dois dire que grâce à la charité, malgré la foi, la charité reste cause de joie. Parce que je suis uni à Dieu et Dieu habite en moi. Oui, c'est le renversement de l'argument que fait Saint Thomas. C'est joli comme manière de procéder. Deuxième objection. Au point de vue du mérite, la charité est la cause principale de notre béatitude. Mais parmi les causes secondaires, l'Évangile signale les larmes. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Or, les larmes expriment la tristesse, et la charité produit donc en nous plus en... et la charité la produit donc en nous plus encore que la joie. Plus vous aimerez, plus vous pleurerez. Hein? C'est ça l'objection, puisque c'est une béatitude de pleurer. Alors, plus vous aimez, plus vous pleurez. Et la charité est beaucoup plus source de larmes que de joie. Réponse de saint Thomas. Vous voyez, il y a des saintetés de tristesse et de larmes et des saintetés de joie. La réponse de saint Thomas. La tristesse qui mérite la béatitude a pour objet ce qui fait obstacle à celle-ci. C'est donc pour la même raison qu'une pareille tristesse et la joie spirituelle proviennent de la charité. Comme c'est pour la même raison qu'on se réjouit d'un bien et qu'on s'attriste de ce qui s'oppose. C'est la même raison. C'est la même charité qui est source de larmes et qui est source de joie. Mais pas de la même façon. Elle est source de joie immédiatement. Elle est source de larmes à cause de ce qui me sépare de Dieu. Donc, d'un côté, il y a un lien immédiat et essentiel. De l'autre côté, il n'y a pas un lien immédiat et essentiel. La preuve, c'est que dans le ciel, il n'y aura plus de larmes et que la charité s'exercera parfaitement. Si la charité était immédiatement unie aux larmes, les larmes demeuraient éternellement, même dans l'au-delà. Alors, ce seraient tous des bienheureux qui pleureraient. N'est-ce pas ? Le ciel qui serait un lieu de pleurs. Alors, pas du tout, le ciel n'est pas un lieu de pleurs, puisque toutes les larmes seront essuyées. Il pleurait beaucoup sur la terre pour que le Père émette longtemps à essuyer toutes vos larmes. Vous voyez, c'est merveilleux, n'est-ce pas ? Que toutes vos larmes seront essuyées. Parce qu'il n'y aura plus que la joie. La charité est immédiatement source de joie, elle est immédiatement source de tristesse. Donc, il faut bien saisir. Elle est cause commune de la tristesse et de la joie, mais pas de la même manière. La charité, troisième objection, la charité est une vertu distincte de l'espérance. Saint Paul dit, soyez pleins de la joie que vous donne l'espérance. C'est donc celle-ci et non la charité qui cause la joie. Ça, c'est aussi très intéressant. La joie spirituelle, qui a Dieu pour objet, est de deux espèces. Se réjouir du bien divin considéré en lui-même ou du bien divin qui nous est donné en partage. La première est la meilleure et a sa source principale dans la charité. La seconde provient encore de l'espérance par laquelle nous attendons de jouir du bien-aimé, du bien infini. Sans oublier que cette jouissance même parfaite ou imparfaite, correspond au degré de notre charité. Donc c'est toujours la charité. Mais par l'intermédiaire de l'espérance ou immédiatement. Oui, là encore, les deux aspects, c'est assez joli ça. De mettre, ces deux objections sont assez à mettre en parallèle. Voyez, comment la charité est source de joie et de tristesse. Comment la charité est source d'une joie plénière parce que Dieu est présent. Et par l'intermédiaire de l'espérance, elle est source de joie encore, parce qu'un jour, Dieu me sera parfaitement donné. Il y a deux claviers, vous voyez ? C'est important, ça. Pour ceux qui sont facilement tristes, il ne faut pas oublier les deux claviers. Réjouissez-vous par la charité, et si ça ne marche pas, par l'espérance. Et c'est deux manières. C'est deux manières de réjouir son cœur. On réjouit son cœur parce que Dieu est présent, oui, parce que Dieu nous aime, parce que nous sommes capables de l'aimer. Et puis si ça ne marche pas, réjouissez-vous parce qu'un jour il vous sera donné en pleine lumière. Vous voyez ? Alors à ce moment-là, c'est autre chose, c'est un autre motif. Mais il faut voir les deux motifs qui sont pour nous source de joie. Article 2. La joie spirituelle causée par la charité peut-elle être mêlée de tristesse ? Ça, c'est aussi très beau, ça. Un article très intéressant, celui-là. Pour l'agonie du Christ, hein, par exemple. La joie causée par la charité a pour objet celui que l'Écriture appelle la sagesse divine et dont elle nous affirme que sa société ne cause aucune amertume. Donc, si je suis avec Dieu, il n'y a plus de cause amertume. Si je suis avec la sagesse de Dieu, il n'y a plus de cause amertume. Rappelons-nous les deux espèces de joie causées par la charité et qui ont Dieu pour objet. La première est principale, réservée à la charité, a pour objet le bien divin considéré en lui-même. Une pareille joie est incompatible avec la tristesse. Absolument comme le bien qui est en Dieu est incompatible avec le mal. C'est en ce sens que saint Paul disait « Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps ». La seconde et secondaire a pour objet le bien divin considéré comme notre partage, par l'espérance, voyez. Or, comme cette participation peut rencontrer quelques obstacles, il en résulte que, par le même, la tristesse se mêle à la joie. Et c'est ainsi que nous nous attristons de ce qui nous empêche nous-mêmes ou notre prochain, que nous aimons comme nous-mêmes, de participer au bien divin. Vous voyez l'infiltration de la tristesse. Comment, à cause de la foi, et au fond, Saint-Amand aurait pu ajouter une troisième raison, à cause de la foi. En réalité, s'il y a l'espérance, c'est à cause de la foi. Donc c'est implicite. Et je crois qu'on pourrait ajouter une troisième raison. C'est à cause de la foi et de l'espérance que peut s'infiltrer une certaine tristesse. À l'intérieur de cette source de joie que me donne l'amour, que me donne la charité. Et donc il peut y avoir simultanément joie et tristesse. Je crois que ce qui s'est passé dans tout le mystère de la croix du Christ. Le Christ, au plus intime de son cœur, avait une profonde joie d'accomplir la volonté du Père. Et en même temps, il y avait une tristesse et une douleur. Et les deux choses peuvent coexister. C'est très très mystérieux ça. Ça peut coexister. On peut pleurer d'un œil et être joyeux de l'autre. Vous savez bien, ça existe de temps en temps. On pleure parce qu'on est triste, oui, et puis en même temps, on est dans la joie. Ça peut coexister, divinement parlant. Au point de vue humain, ça peut aussi exister, ça, parce que les motifs sont divers. Mais ordinairement, c'est plus successif. Tandis que lorsqu'il s'agit du point de vue divin, c'est beaucoup plus immédiat. On peut très bien connaître simultanément joie et tristesse. Pas au même niveau, hein. Un niveau très intérieur, au niveau de la charité, donc au niveau le plus intérieur, on connaît la joie, au niveau de notre désir, au niveau de notre espérance, et au niveau de la foi, il peut y avoir une certaine tristesse. Non. Ah, mais il y avait une possibilité pour lui de porter la faute des autres dans la charité. Et alors, porter les autres, des fautes des autres, c'est porter par le fait même l'éloignement de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est de porter l'éloignement. Et l'éloignement est cause de tristesse. Oui, anathème pour ses frères. Dans l'ordre de l'amour. Alors. Il semble, première objection, il semble bien qu'elle le soit. La charité demande qu'on se réjouisse du bien du prochain. Elle ne prend pas plaisir à l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Mais cette joie n'est pas sans mélange, puisque saint Paul nous dit qu'il faut se réjouir avec ceux qui sont dans la joie, mais aussi pleurer avec ceux qui pleurent. Comme il y en a toujours qui sont dans la joie et toujours ceux qui pleurent, on doit d'un œil se réjouir et de l'autre côté pleurer. Hein? Situation pas très confortable. C'est vrai, c'est ce qu'il nous est dit, ça. Alors saint Amand répond, « Les pleurs de notre prochain sont causées par quelque mal. Or, le mal vient toujours d'un défaut de participation au bien souverain. Et c'est à ce défaut de ce bien que la charité nous fait compatir. » Compatissons que notre prochain ne participe pas assez au bien. Donc il y a en lui des fêlures. Et nous compatissons à ça. Et nous compatissons, c'est-à-dire nous portons sa tristesse. Vous voyez, si vous prenez tout de suite la seconde objection pour aller plus vite, vous avez la réponse. Nos péchés mettent une séparation entre Dieu et nous. Voilà pourquoi nous pleurons nos péchés passés. Oui, comme le Christ là, a pleuré les péchés des autres, et aussi ceux des autres, parce qu'ils nous empêchent de participer au bien divin. Et là, la question de la foi et de l'espérance ne sont plus présents. C'est simplement le constater que le prochain connaît cette séparation à l'égard de Dieu. Et je peux porter cette séparation en compatissant. Article 3, la joie spirituelle causée par la charité peut-elle être en nous pleine et entière? facile. Ça. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. On peut considérer la plénitude de la joie sous un double rapport, par rapport à la réalité qui cause la joie, si l'on s'en réjouit autant qu'elle en est digne. La joie est pleine et entière. Mais il est évident que Dieu seul peut se réjouir ainsi de lui-même. Sa joie est infinie et correspond à sa bonté infinie, ce dont toute créature est incapable. Ça, c'est évident, c'est la compréhension de Dieu au niveau de l'intelligence et au point de vue de l'amour. J'aime Dieu, Dieu s'aime d'une manière exhaustive, mais Dieu seul s'aime de cette manière. Nous ne pouvons jamais comprendre Dieu parfaitement et l'aimer d'une manière exhaustive. Donc nous ne pouvons pas aimer Dieu autant que Dieu, nous ne pouvons pas être joyeux de la présence de Dieu autant que cette présence le demanderait. Nous sommes toujours en deçà. Par rapport à celui qui éprouve la joie, il faut remarquer que celle-ci est au désir ce que le repos est au mouvement. Petite analogie intéressante. Hein, c'est évident que la joie, c'est le repos par rapport au désir qui est un mouvement, une tension, comme on l'a expliqué en traitant des passions. Le repos est plein et parfait quand plus rien ne reste du mouvement. De même, la joie est pleine et entière quand il ne reste plus rien à désirer. Or, tant que nous sommes en ce monde, ce mouvement intérieur qui est le désir reste inapaisé, parce que la grâce peut toujours nous rapprocher de Dieu. Mais une fois en possession de la béatitude parfaite, tout désir cesse avec la jouissance pleine et entière de Dieu, qui satisfait également et comble de bien les désirs de l'homme. Cet arrêt de tout désir, qu'il ait Dieu pour objet ou tout autre bien, donne donc à la joie des élus ce caractère de joie absolument pleine et même plus que pleine, puisque ce qui leur est donné dépasse leurs désirs. Ce bonheur préparé par Dieu pour ceux qui l'aiment et qui en est et qui est mystère. Cette mesure abondante et surabondante qui sera versée dans leur sein. Mais comme aucune créature n'est capable d'une joie égale à celle que Dieu doit donner, il s'ensuit que l'homme ne peut soutenir cette joie pleine et entière, mais c'est plutôt par elle qu'il est comme absorbé. Entre dans la joie de ton maître. Donc vous voyez comment saint Thomas explique ici. Hein, qu'est-ce que représente cette plénitude de joie? Si vous prenez la joie du côté objectif, du côté de l'objet qui est pour nous source de joie, jamais notre joie ne sera parfaite. C'est-à-dire elle ne sera jamais adéquate à toutes les capacités de la joie de Dieu. Dieu pourrait me réjouir toujours plus. Si je le prends du côté du sujet, non plus du côté de l'objet, mais du côté du sujet, alors à ce moment-là, je peux considérer que la joie, c'est comme le repos, à la différence du désir qui est comme le mouvement. Et donc, je suis en joie parfaite quand je suis dans un repos plénier. Tant qu'on est dans la foi, on n'est jamais dans un repos plénier. Parce qu'on peut toujours progresser plus. On peut toujours aller plus loin. Il y a toujours quelque chose en nous de potentiel qui peut s'actuer. Et donc, on n'est pas dans un repos parfait. Et donc, on ne peut pas être dans une joie plénière. On est toujours dans une joie d'attente. Je crois que c'est facile à comprendre, ça. La joie est-elle une vertu? Nous terminons par là, comme ça. Nous aurons vu cette question de la joie. La joie n'a pas été énumérée ni parmi les vertus théologales, ni parmi les vertus morales, ni parmi les vertus intellectuelles, quand on en fait le recensement. C'est le recensement des jours, quand on regarde tout simplement toutes les vertus. Donc ça, c'est très simple. Ça n'est pas dans le catalogue des vertus. Si ça n'est pas dans le catalogue des vertus, la joie n'est pas une vertu. Saint Thomas a un bon fichier, vous voyez. Il étale son fichier de temps en temps. Il est mis sur ordinateur. Alors ça passe. Donc, la joie ne fait pas partie des vertus. Regardez bien toutes les vertus. La joie ne fait pas partie des vertus. Alors ici, il va l'expliquer. Hein. Ainsi qu'on l'a dit, la vertu est un certain habitus opératif. Exis, grec, hein, toujours plus clair. Alors, exis. La vertu est un habitus. C'est-à-dire, c'est une capacité à opérer. Ce n'est pas l'opération, la vertu, c'est une capacité à opérer. C'est-à-dire, de par sa nature même, une tendance à un certain acte. Mais la vertu n'est pas un acte. Donc la vertu demande d'être actuée, toujours, d'aller plus loin. Or, il arrive qu'au même habitus soit l'origine de plusieurs actes de même nature, ainsi subordonnés et dérivés l'un de l'autre. Mais comme les suivants ne surviennent que par l'intermédiaire du premier, c'est de celui-ci que la vertu reçoit sa définition et son nom, quoique les autres procèdent également d'elle.